Bonjour, nous vous proposons ce jour la deuxième émission d'une série consacrée à Marcel Proust. L'objectif de cette série est de vous proposer quelque chose de l'univers de Proust à travers de courts extraits de son œuvre, formant chacun une petite entité thématique en soi. Pour cette émission, nous avons retenu le thème du « baiser du soir » qui occupe largement les débuts du premier livre de la recherche, mais que l'on retrouve évoqué tout au long de l'ouvrage jusqu'à la fin du temps retrouvé. Un partenaire comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique, sur qui va reposer cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie grandement d'avoir bien voulu accepter que nous nous lancions ensemble dans ce projet. Bonne écoute.
Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendait de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venu. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait ma porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore », mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché. Car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ses rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa puissance réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là où maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner, et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à Monsieur Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin, quelquefois après le dîner, à l'improviste. Mais le seul d'entre nous, pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers, où seulement M. Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde, et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir Il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais, sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement ces soirs-là où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse brusquement, publiquement, sans même avoir le temps et la liberté nécessaires pour porter à ce que je faisais cette attention des maniaques qui s'efforcent de ne pas penser à autre chose pendant qu'il ferme une porte pour pouvoir, quand l'incertitude maladive leur revient, lui opposer victorieusement le souvenir du moment où ils l'ont fermé. Nous étions tous au jardin quand retentirent les deux coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swann. Nous nous assîmes tous autour de la table de fer. J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seul dans ma chambre sans pouvoir m'endormir. Je tâchais de me persuader qu'elles n'avaient aucune importance puisque je les aurais oubliées demain matin, de m'attacher à des idées d'avenir qui auraient dû me conduire comme sur un pont au-delà de l'abîme prochain qui m'effrayait. Mais mon esprit, tendu par ma préoccupation, rendu convexe, comme le regard que je dardais sur ma mère, ne se laissait pénétrer par aucune impression étrangère. Les pensées entraient bien en lui, mais à condition de laisser dehors tout élément de beauté ou simplement de drôlerie qui m'eût touché ou distrait. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner, et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais dans la salle à manger pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure de faire d'avance ce baiser qui serait si court et furtif. Tout ce que j'en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause, prépare sa palette et a fait d'avance de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué. Il devrait monter se coucher. On dîne tard, du reste, ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte !» Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur. Montant contre mon cœur, qui voulait retourner près de ma mère parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté, où je m'engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Quand nous dormons et qu'une rage de dents n'est encore perçue par nous que comme une jeune fille que nous nous efforçons 200 fois de suite de tirer de l'eau ou comme un vers de Molière que nous nous répétons sans arrêter, c'est un grand soulagement de nous réveiller et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée de rage de dents de tout déguisement héroïque ou cadencé. C'est l'inverse de ce soulagement que j'éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque, par l'inhalation, beaucoup plus toxique que la pénétration morale, de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre, parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. J'ai voulu essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère, en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Dans le cas particulier, l'article du code à cause duquel il était peu probable que, sauf le cas d'incendie, Françoise alla déranger maman en présence de Monsieur Swann, pour un aussi petit personnage que moi, exprimait simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité. Respect qui m'aurait peut-être touché dans un livre, mais qui m'irritait toujours dans sa bouche à cause du ton grave et attendri qu'elle prenait pour en parler. Et davantage ce soir, où le caractère sacré qu'elle conférait au dîner avait pour effet qu'elle refuserait d'en troubler la cérémonie. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avait voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me crut pas, car comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe, comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de son code elle allait se référer. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est petit point malheureux pour les parents d'avoir un enfant pareil. » Elle revint au bout d'un moment me dire qu'on n'en était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ce moment devant tout le monde, mais que, quand on en serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure, pour jusqu'à demain, que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer invisible et ravi dans la même pièce qu'elle, aller lui faire parler de moi à l'oreille, puisque cette salle à manger interdite, hostile, où il y avait un instant encore la glace elle-même, le granité et les rince-bouches me semblaient recéler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes, parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi et, comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter, jusqu'à mon cœur enivré, l'attention de maman, tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparé d'elle. Les barrières étaient tombées. Un fil délicieux nous réunissait. Et puis ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie, et personne aussi bien que lui, peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre, c'est l'amour qui la lui a fait connaître. L'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie. Elle flotte, en l'attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade. Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage, quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l'avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous donne quelque ami, quelque parent de la femme que nous aimons quand, arrivant à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelque bal, redoute ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit, errant dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Et il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n'est plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant 5 minutes. Que nous l'aimons, comme en ce moment j'aimais Françoise. L'intermédiaire bien intentionné qui d'un mot vient de nous rendre supportables, humaines et presque propices. La fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons ennemis pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a accostés et qui est lui aussi un des invités des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes, où elle allait goûter des plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée, nous y pénétrons. Voici qu'un des moments dont la succession les aurait composés, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous, parce que notre maîtresse y est plus mêlée, nous nous le représentons, nous le possédons, nous y intervenons, nous l'avons créé presque. Le moment où on va lui dire que nous sommes là, en bas. Et sans doute, les autres moments de la fête ne devaient pas être d'une essence bien différente de celui-là, ne devaient rien avoir de plus délicieux et qui dut tant nous faire souffrir, puisque l'ami bienveillant nous a dit « Mais elle sera ravie de descendre ». Cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous que de s'ennuyer là-haut. Hélas, Swann en avait fait l'expérience. Les bonnes intentions d'un tiers sont sans pouvoir sur une femme qui s'irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Souvent, l'ami redescend seul. Ma mère ne vint pas. Et sans ménagement pour mon amour-propre, engagée, est-ce que la fable de la recherche dont elle était censée m'avoir prié de dire le résultat ne fut pas démentie, me fit dire par Françoise ces mots. Il n'y a pas de réponse. Que depuis j'ai si souvent entendu des concierges de palace ou des valets de pied de tripot rapporter à quelque pauvre fille qui s'étonne.
Comment ? Il n'a rien dit ? Mais c'est impossible. Vous avez pourtant bien remis ma lettre. C'est bien. Je vais attendre encore.
Et de même qu'elle assure invariablement n'avoir pas besoin du bec supplémentaire que le concierge veut allumer pour elle, et reste là, n'entendant plus que les rares propos sur le temps qu'il fait échanger entre le concierge et un chasseur, qu'il envoie tout d'un coup, en s'apercevant de l'heure, faire rafraîchir dans la glace la boisson d'un client, ayant décliné l'offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi, je la laissais retourner à l'office, je me couchais et je fermais les yeux, en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant, au risque de la fâcher, si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue, et les battements de mon cœur, de minute en minute, devenaient plus douloureux, parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, et non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune, qui, doublant et reculant chaque chose par l'extension devant elle de son reflet, plus dense et concret qu'elle-même, avait à la fois aminci et agrandi le paysage comme un plan replié jusque-là qu'on développe. Je savais que le cas dans lequel je me mettais aidait de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves. Bien plus graves, en vérité, qu'un étranger n'aurait pu le supposer, de celles qu'il aurait cru que pouvaient produire seules les fautes vraiment honteuses. Mais dans l'éducation qu'on me donnait, l'ordre des fautes n'était pas le même que dans l'éducation des autres enfants. Et on m'avait habitué à placer avant toutes les autres, parce que sans doute, il n'y en avait pas contre lesquelles j'eusse besoin d'être plus soigneusement gardé, celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors on ne prononçait pas ce mot. On ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j'étais excusable d'y succomber ou même peut-être incapable d'y résister. Mais je les reconnaissais bien à l'angoisse qui les précédait comme à la rigueur du châtiment qui les suivait. Et je savais que celles que je venais de commettre étaient de la même famille que d'autres pour lesquelles j'avais été sévèrement puni, quoique infiniment plus grave. Quand j'irai me mettre sur le chemin de ma mère, au moment où elle monterait se coucher, et qu'elle verrait que j'étais resté levé pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain. C'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après, j'aimais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'était lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s'il avait trouvé la langouste bonne et si M. Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. « Je l'ai trouvée bien quelconque, » dit ma mère. Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer d'un autre parfum. » Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant. Puis mon père dit « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil, ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillé. Mais j'aperçois de la lumière dans l'office et puisque la pauvre Françoise m'a attendu, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte grillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allai sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer, mais du moins, il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot. Et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler, et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille, eussent été puérils. Une parole, c'eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer. Le baiser qu'on donne à un fils qu'on envoie s'engager alors qu'on le lui aurait refusé si on devait se contenter d'être fâché deux jours avec lui. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère « Sauve-toi, sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi attendant comme un fou !» Mais je lui répétais « Viens me dire bonsoir !» Terrifié, en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage, et espérant que maman pourrait éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir. » Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit. « Je suis perdu. » Il n'en fut pas ainsi. Mon père refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes les plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente, ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure, ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant l'heure rituelle, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication. » mais aussi parce qu'il n'avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère. Il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant d'un air étonné et fâché. Puis dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » Mais, mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a deux lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je reste, sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné M. Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau, comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Maman passa cette nuit-là dans ma chambre. Au moment où je venais de commettre une faute telle que je m'attendais à être obligé de quitter la maison, mes parents m'accordaient plus que je n'eusse jamais obtenu d'eux comme récompense d'une belle action. Même à l'heure où elle se manifestait par cette grâce, la conduite de mon père à mon égard gardait ce quelque chose d'arbitraire et d'immérité qui la caractérisait et qui tenait à ce que généralement elle résultait plutôt de convenances fortuites que d'un plan prémédité. Peut-être même que ce que j'appelais sa sévérité quand il m'envoyait me coucher méritait moins ce nom que celle de ma mère ou ma grand-mère, car sa nature, plus différente en certains points de la mienne que n'était la leur, n'avait probablement pas deviné jusqu'ici combien j'étais malheureux tous les soirs. Ce que ma mère et ma grand-mère savaient bien. Mais elles m'aimaient assez pour ne pas consentir à m'épargner de la souffrance. Elles voulaient m'apprendre à la dominer afin de diminuer ma sensibilité nerveuse et fortifier ma volonté. Pour mon père, dont l'affection pour moi était d'une autre sorte, je ne sais pas s'il aurait eu ce courage. Pour une fois où il venait de comprendre que j'avais du chagrin, il avait dit à ma mère « Va donc le consoler. » Maman resta cette nuit-là dans ma chambre, et comme pour ne gâter d'aucun remords ces heures si différentes de ce que j'avais eu le droit d'espérer, quand Françoise, comprenant qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire en voyant maman assise près de moi, qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda « Mais madame, qu'a donc monsieur à pleurer ainsi ?» Maman lui répondit « Mais il ne le sait pas lui-même, Françoise. Il est énervé. Préparez-moi vite le grand lit et montez-vous coucher. » Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire qu'on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n'étais pas responsable. J'avais le soulagement de n'avoir plus à mêler de scrupules à l'amertume de mes larmes. Je pouvais pleurer sans péché. Je n'étais pas non plus médiocrement fier vis-à-vis de Françoise de ce retour des choses humaines qui, une heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m'avait fait dédaigneusement répondre que je devrais dormir, m'élevait à la dignité de grande personne et m'avait fait atteindre tout d'un coup à une sorte de puberté du chagrin, d'émancipation des larmes. J'aurais dû être heureux. Je ne l'étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c'était une première abdication de sa part devant l'idéal qu'elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois, elle, si courageuse, s'avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire, c'était contre elle, que j'avais réussi. Comme aurait pu le faire la maladie, des chagrins ou l'âge, à détendre sa volonté, à faire fléchir sa raison, et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j'avais osé maintenant, j'aurais dit à maman, « Non, je ne veux pas. Ne couche pas ici. » Mais je connaissais la sagesse pratique réaliste, comme on dirait aujourd'hui, qui tempérait en elle la nature ardemment idéaliste de ma grand-mère, et je savais que, maintenant que le mal était fait, elle aimerait mieux m'en laisser du moins goûter le plaisir calmant et ne pas déranger mon père. Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là, où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes. Mais justement, il me semblait que cela n'aurait pas dû être. Sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n'avait pas connue mon enfance. Il me semblait que je venais d'une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Cette pensée redoubla mes sanglots, et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d'un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m'en étais aperçu, elle me dit en riant « Voilà mon petit Jaunet, mon petit serin, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui, pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n'as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver. Faisons quelque chose. Prenons un de tes livres. » Mais je n'en avais pas là. Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête? Pense bien, tu ne seras pas déçu de ne rien avoir après-demain. J'étais au contraire enchanté, et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner à travers le papier qui les enveloppait que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect, pourtant sommaire et voilée, éclipsait déjà la boîte à couleurs du jour de l'an et les verres à soie de l'an dernier. C'était La Mare au Diable, François le Champi, La Petite Fadette et Les Maîtres Sonneurs. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champi. Elle dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent différentes, dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. Mes remords étaient calmés. Je me laissais aller à la douceur de cette nuit où j'avais ma mère auprès de moi. Je savais qu'une telle nuit ne pourrait se renouveler, que le plus grand désir que j'eusse au monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures nocturnes, était trop en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que l'accomplissement qu'on lui avait accordé ce soir put être autre chose que factice et exceptionnel. Demain, mes angoisses reprendraient, et maman ne resterait pas là. Mais quand mes angoisses étaient calmées, je ne les comprenais plus. Puis demain soir était encore lointain. Je me disais que j'aurais le temps d'aviser, bien que ce temps-là ne pût m'apporter aucun pouvoir de plus, puisqu'il s'agissait de choses qui ne dépendaient pas de ma volonté et que seul me faisait paraître plus évitable l'intervalle qui les séparait encore de moi. En échange, de ce que l'imagination laisse attendre et que nous nous donnons inutilement tant de peine pour essayer de découvrir, la vie nous donne quelque chose que nous étions bien loin d'imaginer. Qui m'eût dit à Combray, quand j'attendais le bonsoir de ma mère avec tant de tristesse, que ses anxiétés guériraient, puis renaîtraient un jour, non pour ma mère, mais pour une jeune fille, qui ne serait d'abord sur l'horizon de la mer qu'une fleur que mes yeux seraient chaque jour sollicités de venir regarder, mais une fleur pensante, et dans l'esprit de qui je souhaitais si puérilement tenir une grande place, que je souffrirais, qu'elle ignorât que je connaissais Madame de Villeparisis. Oui, c'est le bonsoir, le baiser d'une telle étrangère, pour lequel, au bout de quelques années, je devais souffrir autant qu'enfant, quand ma mère ne devait pas venir me voir. Dans ma petite chambre de Combray, pendant la nuit peut-être la plus douce et la plus triste de ma vie, où j'avais, hélas, obtenu de mes parents une première abdication, d'où je pouvais faire dater le déclin de ma santé et de mon vouloir, mon renoncement chaque jour aggravé à une tâche difficile. Ah, si j'avais encore les forces qui étaient intactes encore dans la soirée que j'avais alors évoquée en apercevant François le Champy. C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait, avec la mort lente de ma grand-mère, le déclin de ma volonté, de ma santé. Tout s'était décidé au moment où, ne pouvant plus supporter d'attendre au lendemain pour poser mes lèvres sur le visage de ma mère, j'avais pris ma résolution. J'avais sauté du lit et était allé en chemise de nuit m'installer à la fenêtre par où entrait le clair de lune jusqu'à ce que j'eusse entendu partir Monsieur Swann. Mes parents l'avaient accompagné. J'avais entendu la porte du jardin s'ouvrir, sonner, se refermer. Alors je pensais tout d'un coup que si j'avais encore la force d'accomplir mon œuvre cette matinée, comme autrefois à Combray certains jours qui avaient influé sur moi, qui m'avaient aujourd'hui même donné à la fois l'idée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout dans celle-ci la forme que j'avais pressentie autrefois dans l'église de Combray et qui nous reste habituellement invisible, celle du temps. Si c'était cette notion du temps évaporé, des années passées non séparées de nous, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief, c'est qu'à ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l'instant où je les avais entendus et la matinée guermante, je fus effrayé de penser que c'était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je pusse rien changer au criaillement de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment il s'éteignait, pour le réapprendre, pour bien l'écouter. Je dus m'efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi-même que j'étais obligé de descendre. C'est donc que ce tintement y était toujours, et aussi, entre lui et l'instant présent, tout se passait indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait tinté, j'existais déjà, et depuis, pour que j'entendisse encore ce tintement, il fallait qu'il n'y eût pas eu discontinuité, que je n'eusse pas un instant cessé d'exister, de penser, d'avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi. Que je pouvais encore retourner jusqu'à lui, rien qu'en descendant plus profondément en moi. Et c'est parce qu'ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu'ils contiennent tant de souvenirs, de joie et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l'ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux, jusqu'à en souhaiter la destruction. Car après la mort, le temps se retire du corps. Et les souvenirs si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n'est plus, et le seront bientôt de celui qu'ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d'un corps vivant ne les entretiendra plus.
Ainsi se termine cette deuxième émission d'une série au nombre indéterminé à ce jour, série d'émissions réalisée autour de l'œuvre de Marcel Proust. Elle prendra la forme d'évocations thématiques puisées dans « À la recherche du temps perdu ». Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus, d'André Bonhomme, avec qui donc nous co-réalisons ces émissions, qui nous tiennent fort à cœur à tous les deux. Les morceaux que vous avez entendus en intermède sont des extraits du premier des 5 Kindertotenlieder, chant sur les enfants morts, écrit par le poète Friedrich Rückert. Le premier poème, « À présent, le soleil va se lever aussi brillant » que si nul malheur n'était arrivé cette nuit, le malheur n'est arrivé qu'à moi seul, le soleil, lui, brille pour tout le monde. Tu ne dois pas éteindre la nuit en toi, tu dois la verser dans la lumière éternelle. Une petite lumière s'est éteinte sous ma tente. Salut aux lumières joyeuses de ce monde. Friedrich Rückert a écrit cette série de poèmes après le décès de ses deux enfants et Gustav Mahler les a mis en musique en 1903-1905. Ils étaient interprétés là par Kathleen Ferrier, accompagnée par l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Bruno Walter, un enregistrement historique. Thank you.
Thank you.